Allô la planète avec Chapka.
Allô la planète numéro 160. Bienvenue tout le monde pour nous joindre, bien sûr, pour discuter avec nous, passer à l'antenne, raconter vos aventures à venir, passées ou présentes. Ouais, voilà, je te dis. Puis celles qu'il y a dans vos têtes aussi et qui ne verront jamais le jour, mais c'est pas grave, on peut les partager. Vous nous laissez un petit message sur la page Facebook de l'émission et sur le blog d'Allô la planète. Et on démarre avec notre amie Laurence.
Allô la planète avec Eric Lange.
Le nez dans les bagages, Laurence, alors ? T'es en train de faire tes valises ?
Oui, bonjour Eric. Oui, voilà, on part demain.
Ah, d'accord.
Alors j'étais en train de terminer les valises.
Ben, vous allez où ?
On part en France cette fois. On part 15 jours.
Ouais.
Avec ma copine du blog Avenue Reine Mathilde.
D'accord. Et là, t'es où,
Tiffania.
Là, t'es où, là ?
Là, pour l'instant, je suis rentrée à Bruxelles et donc on repart.
Parce qu'il faut rappeler, avant de venir au message que tu m'as envoyé là à propos de l'Afrique, il faut rappeler un peu ta façon de vivre qui est assez, on va dire, particulière.
Bah oui, on a une vie nomade. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de maison, on est toujours en vadrouille, mais on bouge essentiellement en fonction du travail. Donc, il y a des périodes où on revient en Belgique, puis d'autres où on va en Afrique ou en Italie. Fin juin, ce sera aussi pour le travail. Donc, on bouge de cette manière-là.
Quand tu dis pour le travail, vous faites quoi comme boulot ?
Alors, c'est surtout mon mari qui il est secouriste et formateur pour les milieux hostiles. Et moi, j'imprime notre livre. J'écris notre livre, j'écris. Et voilà.
D'accord, donc en fonction des contrats, hop, vous bougez. Toi, ton mari et les enfants, il y en a deux, hein, si je me souviens bien.
Il y en a un à temps plein et un à mi-temps. Et il nous accompagne aussi.
Vous étiez en Afrique alors, il n'y a pas très longtemps là ?
Oui, on a passé le début de l'année, on a passé presque 3 mois entre l'Afrique du Sud et le Lesotho.
Alors, le Lesotho ? Il paraît que c'est un endroit assez dingue.
Ah, le Lesotho. Ouais, c'est un endroit incroyable.
C'est
un endroit un peu mythique comme ça, rêver ce royaume enclavé, ce tout petit royaume, il est aussi grand que la Belgique, hein, enclavé dans cet immense pays qu'est l'Afrique du Sud.
Et c'est une montagne, c'est ça, tout le pays.
C'est un autre monde.
Tout le pays est une montagne.
Oui, effectivement, le pays est un pays très très montagneux. On l'appelle le royaume des cieux.
Ouais.
Et effectivement, quand on rentre, la majorité du pays est au-dessus de 1300-1400 mètres d'altitude. Et nous sommes rentrés par le côté un peu en dessous du Sanipas, donc le côté est. Et donc, ce sont des grandes montagnes par là. Et c'est vraiment impressionnant. On monte par une piste, on arrive à Kachasnek et c'est des montagnes, c'est un autre univers, ce sont des cavaliers, c'est magique.
Oui, ils sont tous à cheval là-bas, c'est ça ? C'est des chevaux partout ?
Oui, les gens se déplacent essentiellement à cheval parce qu'il y a très peu de routes et très peu de voitures. Mais donc pour rejoindre les villages isolés, ils sont à cheval.
Mais il faut, tu te sens en dehors du monde quand tu es là-bas, sur la montagne du Lesotho ? Allô ?
Est-ce qu'on se sent en dehors du monde ? Ouais. Oui, on se sent un peu coupé de la frénésie qu'on peut avoir dans les pays plus, je sais pas si on peut dire plus modernes, mais voilà, on se sent coupé de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour se retrouver à l'intérieur de ce pays.
Mais il y a une grande ville où les autos ?
La capitale, Maseru. Après, je ne sais pas si c'est une très grande ville. On n'y est pas resté très longtemps. On a passé une seule nuit à Maseru. Elle n'était pas très grande, mais c'est la capitale. Après, il y a plein de petites villes le long des routes.
Ouais.
Mais c'est pas très peuplé.
Et alors l'Afrique du Sud autour, vous êtes resté un petit peu aussi ?
L'Afrique du Sud, oui, on est resté plusieurs semaines dans la banlieue de Johannesburg, à Benoni. Mmh. Alors c'était une expérience un peu particulière de vivre dans la banlieue. Et puis on a fait un petit tour On est descendu jusqu'au Cap en train. On a fait plus de 24 heures de train de Johannesburg au Cap.
Bah, c'est magnifique ça, non?
Ah oui, c'était sublime. En plus, le train avait du retard, alors on a pu en profiter encore plus longtemps. C'était magique.
Et je t'appelais aussi parce que tu as publié sur ton blog un papier sur une histoire étonnante qui t'est arrivée. C'était dans quel pays? C'est où, Bijilo?
Alors, Bijilo, c'est en Gambie. C'est sur la côte atlantique, c'est la côte plus touristique où il y a beaucoup de grands hôtels. Et je ne connaissais pas du tout avant d'y aller.
Alors, la Gambie, on n'est plus du tout vers l'Afrique du Sud, là. C'est où, la Gambie?
Ah là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, c'est aussi un tout petit pays, enclavé, lui, dans le Sénégal. C'est un pays qui m'intriguait.
Et t'es parti là-bas avec ton fils, c'est ça?
Oui, on était parti au Sénégal avec Sacha et je voulais terminer notre voyage en Gambie pour avoir une impression du pays, une première impression parce qu'on n'avait pas beaucoup de jours. Donc, je voulais rentrer pour voir est-ce que c'était vraiment différent du Sénégal ou est-ce que c'était la même culture, la même sensation qu'on pouvait avoir au Sénégal. Bien que la Gambie soit un pays anglophone et n'ait pas la même histoire que le Sénégal, mais voilà, ça m'intriguait.
Et alors, t'as senti une grande différence?
Mais en fait, oui, j'ai senti une grande différence. Et je sais pas si c'est lié au pays ou c'est juste lié à mon expérience. Puisque au Sénégal, on a passé qu'une semaine à Dakar, puis on est descendu en Casamance. Et là, c'était vraiment... C'était un accueil très chaleureux, il y avait beaucoup de gentillesse, il y avait beaucoup de partage et je me suis sentie toujours bien là-bas. Et puis, quand j'ai voulu quitter la Casamance, j'ai voulu passer par un petit poste frontière et donc j'avais été me renseigner. Là, le premier contact que j'ai avec le garde, c'était qu'il voulait me faire payer pour passer. Ouais. Quand en tant que Belge, on ne doit pas payer de visa, alors je me suis dit, bon, bah, je vais changer mon itinéraire, je vais passer par l'autre frontière, donc la frontière plus traditionnelle, où là, on a été invité dans le bureau du chef pour subir un petit interrogatoire. C'était gentil, mais c'était quand même aussi étrange. Ouais. Il me demandait pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais la seule, qu'est-ce que je comptais faire, puis il posait des questions personnelles aussi par rapport... à mon métier, à combien je gagnais par mois. Donc, ah ouais. C'était un peu étrange.
Ouais, c'est rare.
Mais très aimable, mais étrange.
Ouais.
Oui.
Et alors, l'histoire de Bijilo, là. Comment tu t'es retrouvée dans ce bled à Bijilo?
En fait, comme j'ai dû changer mon itinéraire, j'étais à Cabadio, je voulais longer la côte plutôt du côté de Khartoum, donc dans le sud, le long de la mer, en Gambie. J'ai changé mon itinéraire et j'ai un peu cherché dans l'urgence d'autres hôtels parce que quand je voyage avec Sacha, je réserve pas spécialement à l'avance des hébergements. Mais là, comme la route allait être longue, je voulais pas qu'on soit à la rue la nuit avec Sacha. Donc, j'ai cherché à réserver un hébergement. Et j'ai pas réussi à appeler 3 hôtels. Alors, je me suis dit, bon, je vais prendre le premier que je vois sur Internet en allant à Kafountine dans un cybercafé. Et j'ai réservé là. C'était à Bijilo. J'ai dit, bon, bah, allons à Bijilo. On verra bien. Il y a un parc de singes, là, une réserve naturelle. Allons-y. Et donc, je me suis retrouvée à Bijilo. Je connaissais rien du tout de la région. Et je me suis pas sentie très bien là-bas.
Et c'est là où tu t'es dit, mais bon, alors c'est au bord de la mer, hein, c'est ça? Il y a plusieurs hôtels au bord de la mer. Et c'est là où tu t'es dit, tiens,
il y a quand même. Au bord de la mer, il y a beaucoup de grands hôtels.
Ouais. Et tu t'es dit, il y a quand même une drôle d'ambiance ici. Il y a un truc que je comprends pas. C'était bizarre.
Voilà, c'était bizarre. Je me suis fait beaucoup aborder par des hommes. Et puis, je voyais beaucoup de couples mixtes. Alors là, c'est en général, j'ai enfin, c'est, c'est un peu difficile d'en parler. Ouais, parce que c'était des hommes assez âgés avec des jeunes femmes, des femmes d'un certain âge avec des jeunes hommes. Et je trouvais que c'est quelque chose qu'on ressent, qu'il y avait... une énergie qui était différente et donc je me faisais aussi aborder par beaucoup d'hommes qui me demandaient si je voulais de la compagnie, si je me sentais pas trop seule et j'ai eu pas mal de ces rencontres. J'ai eu aussi des belles rencontres, j'ai eu des beaux moments de partage, notamment avec GT qui m'a beaucoup aidé et avec qui j'ai pu parler de cette sensation et qui m'a parlé de ce problème du tourisme sexuel.
Voilà, parce que finalement, tu le savais pas, mais t'es arrivé dans un haut lieu de tourisme sexuel. Si j'ai bien compris, un tourisme sexuel homme et femme. Hein,
c'est oui, aussi. Homme et femme, et je trouvais qu'il y avait plus de femmes que d'hommes.
Donc des femmes qui occidentales.
Oui.
Qui viennent se trouver un amant pendant les vacances, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et
alors.
Non, ce qui est marrant, enfin c'est marrant, c'est entre guillemets. Ce qui est étonnant, c'est que toi, tu ne savais pas du tout où tu mettais les pieds. Donc, il y a tout ce moment où tu essaies de comprendre, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais oui, je me demandais ce qu'on voulait. Je me demandais ce qui se passait, puisque j'avais pas eu ce genre de relation, même si au Sénégal, à Dakar, j'ai pu voir ce genre de choses aussi, mais c'était pas aussi marquant, c'était pas aussi prononcé. Et j'avais pas moi-même été sollicitée par des hommes pour ce genre de compagnie.
Tu dirais que c'était glauque ou juste étrange?
C'était étrange et puis bah moi je trouvais ça un peu malsain.
Bah oui.
Après je pense que c'est mon ressenti aussi par rapport à ça où. Finalement, les relations humaines, elles sont motivées par un échange d'argent et de services, parce que c'est quand même aussi un service et où on attend quelque chose de l'autre et je sais pas, je me demande où est alors le vrai échange en fait, le vrai partage. Voilà, mais.
Non, mais
il m'a fallu du temps pour arriver à en parler. Et c'est toujours délicat, je trouve.
Bah oui, c'est pas simple. Il y a des endroits comme ça, bon, tu sais que tu y es quand, je sais pas, l'autre jour, on parlait de Pattaya. Tiens, avec quelqu'un à Pattaya en Thaïlande. Tu mets les pieds là-bas, tu comprends tout de suite où t'es. Il y a des bordels partout, des filles, des bars, des machins. Et une vraie ambiance de sexe.
Oui.
Là, a priori, c'était pas comme ça, quoi. C'était pas clair, quoi.
Il n'y a pas vraiment d'ambiance de sexe, on voit pas les bordels, enfin moi j'en ai pas vu, mais c'est plutôt de voir ces couples et puis surtout ces hommes, ces sollicitations qui venaient vers moi. Alors je me suis interrogée et bon après ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que ça, donc il y a aussi les côtés positifs où j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de vivre des belles expériences là-bas. On a été invités dans une famille à partager un repas. Et on a été invités aussi à manger dans un petit restaurant local. Donc on a vécu aussi de belles expériences où il n'y avait pas de où il y avait un vrai échange. Et puis il y avait cet autre côté qui me mettait vraiment mal à l'aise.
Ouais, mais c'est bizarre quoi. Bon ben voilà, on le saura si vous vous retrouvez par hasard à Bigilo. Ben, sachez que vous mettez les pieds, comme ça vous le saurez. Quoi.
Mais récemment, j'ai vu passer un article du Courrier International qui disait que la Gambie mettait en place une politique pour lutter contre le tourisme sexuel. Voilà.
Ouais, il lance quelque
chose. Donc, ce que j'avais ressenti était juste aussi.
En plus, ça doit être carrément gênant quand t'es avec ton gamin dans des histoires comme ça.
Oui.
C'est petit. Bon,
ça, c'est
qu'est-ce
sûr.
Que je lui dis là?
Oui. Ah bah oui, il me demandait mais pourquoi il te demande si tu as besoin de compagnie.
Bah. Ils sont gentils, dis donc. Bon, ben Laurence, merci. C'est pas évident de parler de tout ça. J'ai bien compris. Merci. Je mets un lien, bien sûr, avec Parti pour, qui est votre blog, la page Facebook et tout ça. Et puis, merci beaucoup. Et puis, tiens-nous au courant pour la suite des aventures de famille nomade.
Mais oui, avec plaisir. Et merci à toi.
Ça marche. Merci, Laurence. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Kat est avec nous. C'est vrai, on a retrouvé Kat. Kat.
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bonjour.
T'as eu un accident de vélo?
Ben pas loin, en fait, comme on est en train de préparer notre prochaine aventure à vélo,
ouais.
Et donc, un de mes rêves, c'était d'avoir un vélo couché. Donc, je viens de m'acheter un vélo couché, mais le problème, c'est que je sais pas en faire, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air.
Ah, voilà.
Voilà. Donc, du coup, j'avais un problème de chaîne qui était complètement coincé et j'ai appelé mon mari à la rescousse, vous voyez.
Ah, bah ouais, parce que non, ouais, je dis
la
ça.
Vraie aventure.
J'explique parce qu'on a appelé il y a 10 minutes, on est tombé, c'est sur ta fille, je pense.
Ouais, c'était ma fille, ouais.
Qui nous dit, mais non, mais maman, elle est tombée à vélo et papa est allé la chercher, il faut rappeler dans 10 minutes. Je dis, ah, ça commence bien l'affaire. Kat, t'as une vie étrange, toi. Enfin, t'as une vie étrange. Non, ça fait 20 ans que tu vis en dehors de France.
Ouais, tout à fait.
20 ans où ça hein?
Donc, d'abord, on est parti en Angleterre, d'abord pour nos études, ensuite, on a trouvé un boulot plus facilement, donc on est resté.
Ouais.
Puis en fait, l'Angleterre, le climat anglais, c'est pas du tout mon truc. Mon mari est du Nord, donc ça va mieux, mais moi pas. Et du coup, on a toujours voulu s'expatrier en Australie.
D'accord.
Et donc, on a fait les démarches. Donc, c'est pas mal de paperasse. C'est un petit peu comme la Green Card aux États-Unis. Donc, c'est de l'administratif pour arriver à avoir tous les papiers. En plus, on peut pas partir enceint. Enfin, je veux dire qu'on attend un enfant. Donc, du coup, ça a mis un petit peu longtemps. Donc, on a resté 11 ans en Angleterre. Et après, dès qu'on a eu notre visa, on est parti. Du coup, on a décidé de voyager un petit peu pendant un an et demi avant de s'installer en Australie.
D'accord. Et en Australie, vous êtes resté combien de temps ?
En Australie, ça fait 10 ans qu'on est en Australie. Et puis, c'est chez nous, quoi. Enfin, là, on est en voyage, mais c'est là qu'on retournera, oui.
Ah, ça y est, ouais, vous êtes installé définitivement là-bas.
Ouais, complètement, ouais. Complètement.
Vous êtes où, là-bas ?
On adore.
Vous êtes où, là-bas ?
Alors, on est sur la côte ouest, ouais. Au nord de Perth, dans une petite ville. Et en fait, c'est très dur de choisir où aller quand on a les choix. On n'avait aucune famille, évidemment. On avait quelques amis, donc on est allé les voir si ça nous plaisait où ils habitaient. Mais on n'avait pas de job, quoi, donc on n'avait aucun lieu de prédilection, quoi. On voulait être à côté de la mer, ça c'était important pour nous, et on adore où on habite, ouais. On adore la mentalité australienne, ça c'est sûr.
Et la vie est plus... Alors, je sais pas, pourquoi la vie est mieux en Australie, à ton avis ?
Alors les gens déjà ils sont beaucoup plus cool que enfin déjà ça fait longtemps que je suis pas rentrée en France, là ça doit faire 2-3 semaines qu'on est en France, mais ouais. C'est sûr que les gens sont beaucoup plus cool, hein. Donc ils ont il y a beaucoup plus de liberté aussi par exemple par rapport aux enfants, puisque nous on a des enfants, c'est beaucoup plus facile en Australie. Là, en France, souvent, les gens, ils me disent « Oh, fais attention à tes enfants ». Puis là, avant de revenir en France, en fait, on est passé aux États-Unis, c'est encore pire, quoi. Donc, ouais. Pour nous, c'est vraiment... c'est un petit peu comme l'Europe il y a 40 ans, quoi. Nos enfants, ils peuvent prendre leur vélo, aller voir leurs copains. Ils sont beaucoup plus libres. Ils prennent leur planche de surf, ils vont faire du surf. Voyez ?
Ouais, je vois. Ouais.
Ouais.
Mais c'est un donc, peu, ouais, c'est un peu ce que nous disent les auditeurs qui s'installent là-bas. Ils disent ça aussi du Canada, tiens, qui est une ambiance plus détendue, plus,
ouais,
je sais pas comment dire exactement.
Ouais, donc il y a ça et puis tout est plus simple. Donc par exemple pour dîner, on va pas se planifier un dîner entre amis un samedi soir, pas du tout. En fait, il fait beau, il y a pas de vent, voilà, hop, on passe un petit texto à tous nos potes et puis on se retrouve à la plage. Et chacun amène quelque chose et puis on partage. C'est beaucoup plus à la bonne franquette, en fait.
Ah ouais. Non, ça doit pas... Et vous bossez dans quoi, là-bas ?
Alors, mon mari, en fait, depuis qu'on est parti d'Angleterre, il bosse plus.
Ouais.
Il est papa à la maison. Et moi, en fait, c'est aussi un des autres avantages, c'est sûr, c'est qu'au niveau job, il n'y a pas de problème, quoi. On invente le job qu'on veut, en fait. Donc moi, j'ai un job, j'arrive même pas à expliquer ce que je fais en France, parce que c'est tellement... tellement loin de ce qu'on peut faire, de ce que je pourrais faire en France, en fait. Donc, en fait, à la base, je suis thérapeute en massage.
Mm-hmm.
Déjà, je suis formée en Angleterre, donc je ne suis pas kiné. Donc, déjà, ça, en France, on a un petit peu de mal à comprendre. Et puis, en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est périnatalité. Donc, je fais beaucoup des cours de bébé massage, des cours de bébé yoga. Après, je fais du coaching en parenting. Donc, à la base, j'ai un diplôme de commerce.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir. Donc en fait, c'est ça aussi qu'on aime beaucoup dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on a pu faire ce qu'on avait envie quand on avait envie. Et là, quand je rentre, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, en fait.
Mais c'est dû à quoi, ça, cette espèce de liberté qu'il y aurait en Australie et qu'il n'y a pas ici ? C'est bizarre.
Nous, on a trouvé qu'en Angleterre, c'était déjà comme ça. Donc il n'y a pas cette apogée, si tu veux, des voies qu'on appelle royales en France avec ingénieur ou école de commerce, hein,
ouais.
Voilà. Donc il y a déjà pas ça. Il y a le fait que tu peux beaucoup plus te faire toi-même. Donc tu peux rentrer dans une boîte et puis si tu as envie de monter, tu peux monter, même si tu n'as pas de diplôme derrière. Il n'y a pas ce fait que oh, t'as un diplôme, alors ça y est, t'es un dieu. Enfin, c'est un peu schématique ce que je
dis. Si, mais c'est ça. En France, je le sens bien, c'est très hiérarchisé.
Voilà. Ouais. Et puis aussi, en France, t'es dans une voie, tu peux plus en sortir. Par exemple, tu commences ta carrière de commercial, je sais pas, dans... n'importe, hein, voilà, tu peux plus en sortir. On dirait que ça y est, tu connais que ça et tu peux pas apprendre autre chose. Alors que la mentalité britannique est peut-être beaucoup plus ouverte au fait qu'on peut apprendre, en fait, même quand on a 40 ans.
Mais oui, je sais.
Voilà. Donc, du coup, c'est plus la motivation. Tu vois, moi, j'avais envie de faire du coaching en parenting parce que c'est quelque chose dont je suis passionnée. Ouais. Voilà, mais j'ai aucun diplôme pour faire du coaching en parenting. C'est juste que ça m'intéressait et j'ai trouvé des gens que ça intéressait et puis voilà.
Tu mets aussi, alors, vous êtes baladé 2 ans aux États-Unis, en Alaska, en Amérique du Sud, avec les enfants.
Oui, avec un camping-car. Donc, on a acheté un camping-car au Canada, on est monté en Alaska, et après, on est redescendu jusqu'à Ushuaia, et puis après, on est remonté un petit peu par le Chili. Donc, presque 2 ans en camping-car. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de donner envie aux gens de faire ça. Parce que de voyager en camping-car avec des enfants, c'est juste super facile.
Ça, qu'est-ce qui rend les choses c'est le fait d'avoir la maison avec soi.
On a la maison, donc déjà il y a un repère pour les enfants. Donc nous avant on avait voyagé pendant 2 ans à peu près aussi en Asie et Nouvelle-Zélande et Australie avant de s'installer en Australie, mais en backpack. Donc en comparaison, et j'ai toujours dit c'est super facile de voyager avec des enfants très petits. Donc là notre aîné avait 12 ans quand on a commencé, donc plus ado. Mais en fait, je me suis rendu compte dans ce voyage que c'était vraiment génial de voyager avec des enfants plus grands. Ils en bénéficient, mais beaucoup plus, bien sûr. Ouais. Et puis, ils ont cette reconnaissance. Ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir faire ça. De pouvoir, comme ça, découvrir le monde. Et puis, bon, évidemment, par exemple, quand on était en Asie, notre aînée, elle parle vietnamien. Elle l'a pas mal oublié. Alors que là, ils ont tous appris l'espagnol. Je pense que ça leur restera beaucoup plus.
Tu dis
et
que tu...
C'est sûr que c'est beaucoup plus facile au niveau organisation parce que t'as à manger, donc quelqu'un a faim, hop, on peut faire un petit snack facile. Tout est super facile. On est fatigué, on n'a pas roulé beaucoup, mais c'est pas grave, on se garde n'importe où et hop, on dort. Donc il n'y a pas, alors où c'est qu'on va dormir, où c'est qu'on va manger, il n'y a aucune logistique à avoir en fait. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est de l'essence dans le truc, c'est tout.
Et alors tu me dis que tes enfants, vous avez choisi World School. Qu'est-ce que c'est que World School, l'école du monde?
Ouais, donc c'est vraiment de voir l'apprentissage comme on peut apprendre de toutes les manières. On peut apprendre à travers toutes les expériences en fait. Pour nous, ce qui est plus important, c'est que nos enfants gardent leur curiosité naturelle que tous les enfants ont. Et c'est vrai que de pouvoir leur faire découvrir à travers, je sais pas, des visites par exemple de sites archéologiques, les différentes civilisations, pour moi c'est beaucoup plus vivant et ça marque beaucoup plus que d'être à un bureau à lire un livre.
Sûrement.
Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'autres cultures. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que nos enfants reviennent trilingues puisqu'ils étaient déjà bilingues, donc forcément c'est plus facile pour eux. J'aurais bien aimé revenir trilingue aussi, mais c'est pas gagné, hein. C'est vraiment beaucoup plus facile pour les enfants, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'ils ont appris beaucoup plus que juste l'histoire-géographie, ce qu'on espérait, de ce continent, quoi. Ils ont appris tellement plus, quoi, en fait.
Mais du coup, tu les as sortis du cycle scolaire traditionnel.
Tout à fait. Donc ça, c'est pareil, hein. L'école en Australie ou dans les pays anglo-saxons est très différente de l'école française. Déjà, pour moi, une des différences vraiment majeures, c'est que en fait, il n'y a pas de niveau dans les classes en primaire. Donc tu peux te retrouver avec une classe où il y a des enfants qui savent très bien lire et des enfants qui ne savent pas du tout lire. Et il n'y aura jamais ce côté à rabaisser, en fait. On est toujours en train de rélever. Donc, on va toujours encourager. Donc, tu vois, même l'enfant le pire que tu peux imaginer au niveau comportement, la maîtresse, il faut qu'elle trouve quelque chose de positif pour mettre sur son bulletin.
D'accord.
Donc, c'est un point de vue vraiment différent. Et c'est un point de vue qu'on retrouve vachement dans les entreprises anglo-saxonnes. Enfin, je parle de notre expérience à nous, évidemment, mais ça avait vraiment été notre expérience. Tu vois, tu fais une bourde. Dans les pays anglo-saxons, tu vas pas te prendre le bâton, tu vas te prendre, c'est bien, qu'est-ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que ça va vous apporter pour le futur. Donc c'est toute une attitude qui est complètement différente et qui commence à l'école. Bon, ceci dit, nos enfants, en fait, déjà n'allaient plus à l'école avant qu'on parte.
Ah bon?
Ouais. Donc parce qu'on a choisi de... Parce qu'en fait, à la base, on voulait que nos enfants soient bilingues et qu'ils sachent écrire et lire en français. Et donc c'était plus facile pour nous de les sortir complètement, de leur apprendre l'anglais en même temps. Et puis en fait, je dois avouer que le français est quand même une langue extrêmement difficile à écrire et qu'ils font toujours des fautes d'orthographe.
Ouais.
Ce qui me rassure, c'est quand je vois les enfants français qui ont fait toute leur scolarité en France, ils font aussi des fautes d'orthographe.
Bah, c'est une catastrophe l'orthographe, ils m'en parlent pas.
Voilà, mais c'est vraiment dur. Non mais, enfin, je vais paraître vraiment naïve, mais je me rendais pas compte à quel point c'était dur comme langue, quoi.
Ah ouais, elle est très dure la langue, je suis d'accord avec toi. Très complexe. Donc, et alors donc tes enfants, ils sont en dehors du cycle scolaire, mais donc c'est vous qui pourvoyez à leur enseignement.
Voilà.
Mais sur le terrain.
Sur le terrain beaucoup plus, mais aussi en essayant de nourrir leurs passions. Et ils ont des passions complètement différentes. Ils ont même aussi des approches, leur manière d'apprendre est complètement différente. D'un enfant à l'autre, c'est complètement différent.
Ouais.
Moi, j'admire les maîtresses qui arrivent à faire avec 30 élèves ce que moi, j'ai du mal à faire avec 4. Quoi.
Mais c'est ce que j'allais te demander. Toi, du coup, c'est un peu un sacrifice pour toi, c'est, non tu dois gérer tout ça, tu dois t'occuper de leur éducation, tu dois être tout le temps avec eux.
Ouais. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail que de les mettre à l'école.
Ah bah oui, là, parce qu'à l'école, c'est bien. Tu les déposes à 8h30 et puis
exactement.
Voilà, t'es tranquille jusqu'à 17h.
Exactement. Mais c'est sûr aussi que moi, je trouve ça passionnant de les voir grandir et de les voir apprendre.
Il faut être passionné pour faire ce que tu fais.
Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ils apprennent et comment ils apprennent vite, comment ils absorbent et comment quand ils sont intéressés, mais ils s'en rappellent. Même super petit. Donc notre dernier, il avait 3 ans et demi quand on a commencé. Hein, il nous parle encore de choses qu'on a fait en Alaska. Donc quand il avait 3 ans et demi, quoi.
Oui, la leçon du truc, prenez vos enfants, mettez-les dans un camping-car et tout ira bien.
Ils apprennent énormément. Mais pour te dire, tu vois, l'espagnol, qu'est-ce que j'ai fait moi pour apprendre l'espagnol? Donc j'avais zéro, hein, j'avais jamais étudié l'espagnol. J'ai pris un livre et tous les jours je faisais mon cours, d'accord? Eux, ils ont rien fait, ok? Ils sont allés jouer avec leurs copains. Bilan, après 2 ans, enfin pas tout à fait, parce qu'on a voyagé environ 1 an et demi dans des pays hispaniques, eux, ils parlent couramment, quasiment. Moi, pas du tout, hein.
Ouais, mais eux, c'est des éponges, tu sais bien.
Ben oui, c'est des éponges, c'est pour ça. Donc en fait, si tu les laisses absorber comme leur éponge, eh ben ça se passe super bien. Et c'est vrai que, et c'est sûr qu'ils ne connaissent pas les mêmes choses que des enfants qui sont allés en France à l'école, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas le but. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent cette curiosité de l'autre, cette curiosité des paysages, cette curiosité de voyager ou d'apprendre, cette curiosité d'apprendre. Et pour apprendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir lire.
Kat, il faut qu'on y aille, là, l'émission se termine.
D'accord.
Bah, écoute, en tout cas, ravi de t'avoir rencontré. Je te rappelle de temps en temps, parce que là, tu vas leur faire découvrir la France.
Voilà, on va découvrir la France maintenant.
Combien de temps?
Probablement 1 an et à vélo, donc.
Mais c'est une famille de cinglés, je te dis.
Mais non, pas du tout.
Non, c'est bien, j'aime bien. Bon, ben, on reste en contact. Je mets un lien avec le blog Unitrip. Pardon, pas une trip. Je confonds. Toi, c'est
Gypsy Smala, c'était en Amérique et maintenant c'est un petit tour de France.
Ah d'accord, un petit tour de France. D'accord, bah, j'aime ça. Ou ta page Facebook, ça simplifie non ou pas?
C'est ça, parfait.
Ok, ça roule. Merci beaucoup, Kat. On se rappelle très bientôt pour prendre des nouvelles des enfants sur les routes de France.
Ça marche, wow. Salut Kat.
Bye, salut Kat. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Et bravo tout le monde, les enfants dans le camping-car, et on va plus à l'école. Bah, elle est belle la vie. Après, bon, faut quand même se les coltiner de 8h du matin à 16h30. Oui, monsieur Fred.
Charlemagne, il est d'accord?
Au revoir, monsieur Fred. Charlemagne n'est pas d'accord. Monsieur Fred qui fait la royale de l'émission et que l'on remercie pour nous joindre à la planète via Facebook et sur le blog. Ciao touti, bonne route.
Ici Pascal Gélinas, vous écoutez la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses, 107.9 CILS FM.
Um grande sonho.
Thank you. Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria.
Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oubliez les temps. Des malentendus et les temps perdus à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup des pourquoi au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Me cacharé là à te regarder dans ses sourires. We'll be right back.
dis-moi, tu me protèges et tu t'en vas. Pourquoi, à chaque fois que tu es là, je sais, personne au monde ne pourra détruire tout ce qui fait ma joie, ma joie. Tu viens, je sais, tu viens de loin. Pourtant, tu es sûrement mon ange à moi. Qui veut m'aider à surmonter la peine de ne jamais y arriver. Fais-moi une surprise, montre-toi. Je veux connaître ton visage et tout de toi. Pour une fois, et enfin je toucherai le paradis. Tu es peut-être ma Pandore à moi. Je dois ouvrir mon cœur quand tu es là. Je sais, tu peux m'avoir quand tu le veux. Pas moi, je ne peux qu'imaginer. Fais-moi une surprise, montre-toi. Je veux connaître ton visage et tout de toi. Fais-le juste pour une fois, et enfin je toucherai. Si tu es vraiment comme je pense, fais-moi un signe et je t'attends. Je veux connaître les mystères et la légende qu'on dit de toi. J'aime une autre que toi. Mais moi, je persiste dans l'espoir. Fais-moi une surprise, montre-toi. Je veux connaître ma Pandore à moi. Pandore à moi.
CILSFM, la voix de votre communauté.
A mi mujer no le gusta el chivo, pero me chivito me arrebata. por eso no lo tengo en casa. Es regadito, pero qué guapachoso. Yo no sé cuándo el mambo va a venir, pero yo estoy gozando. Es regadito, pero qué chévere.
Yeah. 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 Is prisoner out of your heart. You will live a trend on violence. You will live to those whose mood make war.
France Langlois, vous écoutez CILS 107.9 FM à Victoria, votre radio communautaire.
Bonjour, ici c'est Geneviève de la Société francophone de Victoria. Vous êtes à l'écoute du CILFM, la seule radio communautaire francophone du côte ouest des Rocheuses.
Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies.
Nations Unies.
Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Adama Dieng, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Avec son équipe, il a mis sur pied, après de longues consultations avec les leaders religieux du monde entier et de la plupart des obédiences, un plan d'action visant à prévenir l'incitation à la violence qui pourrait conduire à des atrocités criminelles. Un plan récemment lancé à New York en présence du secrétaire général Antonio Guterres, qui juge cruciaux la voix, l'autorité et le rôle d'exemple des chefs religieux. Adama Dieng, bonjour.
Bonjour.
Adama Dieng, donc vous êtes le conseiller spécial sur la prévention du génocide et on assiste à ce lancement d'un plan d'action pour les chefs religieux et les acteurs religieux en vue de prévenir l'incitation à la violence qui donc pourrait mener à des crimes, à des atrocités. D'abord, pourquoi un plan d'action de cette nature aujourd'hui? Pourquoi les Nations Unies et votre bureau sont-ils à la pointe et donc participent à ce lancement?
Comme vous le savez, l'incitation à la violence qui cible des communautés ou des individus basés sur leur identité peut contribuer à préparer à la commission d'atrocités criminelles, et j'entends par atrocités criminelles le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et donc, c'est à la fois cette incitation à la violence, un signal, un avertissement, mais aussi un indicateur précoce du risque de commission de ces crimes. Dès lors, surveiller, prévenir et contrer l'incitation à la violence, particulièrement